Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour les informer et merci de votre fidélité parce que vous êtes nombreux à nous suivre, mais il y a aussi sans doute des novices, des débutants, des auditeurs ou téléspectateurs qui seront sur les informer peut-être pour la première fois. Alors laissez-moi vous expliquer ce que sont les informer. Une émission d'information avec tous les soirs quatre gladiateurs du débat surentraînés, surpréparés et d'ailleurs que l'on change tous les soirs. Je vais d'ailleurs vous les préparer, présenter immédiatement nos Spartacus de l'info. Bonsoir Amdam Mostafavi.
Bonsoir.
Vous êtes rédactrice en chef à Courrier International. Aziz Seni, bonsoir.
Bonsoir.
Chef d'entreprise, co-président de la commission Nouvelle Responsabilité Entrepreneuriale au MEDEF. Soazic Kemener, bonsoir à vous.
Bonsoir.
Rédactrice en chef politique de Marianne. Et puis Jackie Isabello, bonsoir.
Bonsoir, colonel de la guerre.
Communicant, cofondateur de l'agence Coriolink. Allez, au sommaire ce soir, on va parler des relations hommes-femmes. Cela va même être notre plat de résistance, puisque l'actualité se bouscule autour de ce thème. Premier anniversaire de l'affaire Weinstein, un double prix Nobel de la paix qui claque comme une condamnation des violences faites aux femmes à travers le monde. Dans la deuxième demi-heure, on demandera aussi à nos informés si l'hommage national à Charles Aznavour n'était pas un peu too much, si Charles Aznavour était bien à sa place aux Invalides. Et puis, combien y aura-t-il de listes de gauche aux prochaines européennes? Plus que d'électeurs potentiels, répondent ceux qui ont mauvais esprit, c'est pas nous en tout cas. Mais c'est vrai qu'on peut légitimement se poser la question de savoir à quoi servirait une nouvelle candidature de Benoît Hamon, puisqu'elle semble être dans les tuyaux. Allez, c'est parti tout de suite pour une heure de débat. Et rappelez-vous, c'était il y a un an tout juste, le New York Times publiait des témoignages d'actrices accusant un producteur de harcèlement et de viol. La France découvrait alors l'existence d'un certain Harvey Weinstein, extrait du 20h de France 2.
Sur les tapis rouges d'Hollywood, il était le roi, producteur surpuissant, ami des stars. Ici, aux côtés du rappeur Jay-Z, de l'impératrice de la mode Anna Wintour, ou du réalisateur Quentin Tarantino, dont il produit les films Pulp Fiction ou Kill Bill. Harvey Weinstein est aujourd'hui au centre d'un immense scandale. 13 femmes au moins l'accusent d'agression sexuelle ou de viol.
Début de l'affaire Weinstein, donc affaire qui allait très largement dépasser la personne du producteur pour agir comme une sorte d'électrochoc sur nos sociétés occidentales, création du hashtag MeToo aux États-Unis, du balance ton porc chez nous en France. Est-ce que un an après Soazic Kemener, les choses ont changé dans la société française?
Alors, ce qu'il faut voir, c'est que dans la société française, il y avait déjà eu, alors c'était surtout dans la partie politique de la société française, mais ça a essaimé dans le reste de la société, deux chocs, c'est-à-dire l'affaire DSK, on se souvient, juste avant la présidentielle de 2012, et puis l'affaire Baupin. Donc on avait déjà pas mal parlé de ces questions-là auparavant. Alors, qu'est-ce qu'on voit? Il y a un sondage qui est très intéressant aujourd'hui dans le Figaro, et qui explique, par exemple, que, et ça, je trouve ça intéressant, aujourd'hui, il y a un homme de moins de 35 ans, c'est important, c'est l'avenir, un homme de moins de 35 ans sur 4, qui déclare aujourd'hui avoir une autre personne du harcèlement sexuel qui ne l'avait avant cette affaire-là. Donc peut-être que finalement c'est à ça que ça a servi. C'est-à-dire une prise de conscience de ce qu'est réellement le harcèlement sexuel dans la société globalement.
Aziz Seni, c'est un choc salutaire pour la société française ou est-ce que finalement, peu ou prou, les choses n'ont pas changé?
Je crois que ça a été un choc salutaire. On a quelques chiffres au niveau du ministère de l'Intérieur, 23% de plaintes supplémentaires qui émanent de ces femmes qui se sentent peut-être aujourd'hui plus aptes, plus libérées de pouvoir...
La parole a été libérée, dit-on.
La parole a été libérée, donc c'est pas qu'il y ait plus ou moins, ou en tout cas plus d'actes d'harcèlement, c'est simplement que les femmes se sentent peut-être plus courageuses, prennent plus de courage pour aller dire ouvertement ce qui se passe. Je pense que c'est salutaire dans l'administration publique, c'est salutaire aussi dans les entreprises, qu'on puisse vraiment avancer sur ce chemin de l'égalité homme-femme.
Madame Mostafavi.
Oui, c'est sûr qu'il y a une libération de la parole et il y a surtout tout un système autour de la libération de la parole qui commence à changer. C'est-à-dire que voilà, on forme aussi les policiers à recueillir des témoignages de harcèlement, de viol, à réagir correctement face à ça. On crée tout un univers qui fait que si on parle, on n'a pas l'impression que tout va se retourner contre les femmes. Et
mais vous avez l'impression que les femmes ont changé finalement dans qu'elles sont aujourd'hui, qu'elles se disent c'est fini, on ne supporte plus ça?
Oui, dans une certaine partie, oui, évidemment, ça a changé. On n'est plus. Ça ne peut pas changer du jour au lendemain, évidemment. Mais c'est quand même extraordinaire de découvrir. C'est aussi les hommes qui changent en découvrant des histoires. Moi, j'ai été étonnée par le nombre de témoignages d'hommes qui disaient. En fait, je ne me rendais pas compte, c'était sous mes yeux et je ne m'en rendais pas compte. Et ça, ça compte aussi énormément. Évidemment, ça ne va pas changer en 24 heures, ça ne va pas changer en un an. Mais il y a un mouvement qui s'est amorcé qui, à mon sens, ne peut pas s'arrêter.
Jacques-Isabelle Haut, les relations hommes-femmes ont changé ?
Je crois qu'on a énucléé le haut de l'iceberg, mais je pense que pour ceux qui ont lu Françoise Héritier, et moi je suis un grand fan de Françoise Héritier, même si dans certains de ses bouquins c'est très très dur, eh bien on a un monde qui est organisé en faveur de l'être masculin, et elle l'a très très bien décrit. Donc cette libération de la parole, c'est une première étape, et je pense que ça a été assez salutaire parce que ça a permis de travailler la notion d'altérité. Les garçons, ou en tout cas certains garçons, moi qui travaillais avec des femmes toute ma vie, je pense être un peu mieux renseigné que la moyenne, mais certains garçons se sont aperçus que l'autre en face avait pas forcément la même façon de considérer une blague, de l'humour, un truc un peu bravache.
Voilà, mais aujourd'hui, du coup, on fait plus d'humour.
Eh bien, le risque, c'est, vous savez, c'est comme la révolution, c'est comme la fiscalité, c'est que, eh bien, on contrebalance et qu'on en fasse un petit peu trop. Mais à tout choisir, très honnêtement, je suis assez content parce qu'on a tous une sœur, une mère et une femme. Hein, eh bien, à tout choisir, c'est bien qu'on puisse ouvrir ce débat-là et on l'a largement, largement ouvert. Après, le petit désagrément, et moi je le vois souvent, on rencontre souvent des gens, c'est qu'il y a certaines femmes qui sont très féministes et je leur passe un message en leur disant « Laissez les garçons vous aider parce que ce combat ne vous appartient pas à vous seulement. »
Alors le débat est ouvert et il va se poursuivre dans les informés, mais il est 20h10, c'est l'heure de l'info avec Mélanie Pépin.
22 militants d'extrême droite en garde à vue à Marseille, interpellés cet après-midi après avoir occupé brièvement le siège de SOS Méditerranée. Une action coup de poing du groupuscule Génération Identitaire. Ils réclament la saisie de l'Aquarius affrété par l'ONG, selon eux, complice dans le trafic des êtres humains. Le rappeur MHD dénonce une agression policière. La police des polices enquête. Hier soir, le frère du rappeur et un autre individu ont été arrêtés à Paris pour outrage et rébellion. Opération filmée, diffusée sur les réseaux sociaux. Les gardes à vue sont levés ce soir. Après 145 jours de grève de la faim et 20 kilos en moins, le cinéaste ukrainien Oleg Sentsov dit stop. Il met fin à sa lutte en raison de son état de santé critique. Il refuse d'être nourri de force. Je demande pardon à ceux que je laisse tomber, dit-il. Oleg Sentsov est détenu en Russie pour terrorisme. Une, puis deux et bientôt plus encore, les deux ours se relâcher dans le Béarn. Aux grandes dames des éleveurs attendent des petits. Naissances des oursons prévues l'année prochaine. Et puis l'adieu à Charles Aznavour ce matin. Hommage national dans la cour des Invalides aux couleurs de la France et de l'Arménie. Plus de 2000 personnes ont assisté à la cérémonie. Demain, le chanteur sera enterré dans l'intimité à Montfort-l'Amaury dans les Yvelines.
France Info. 20h, 21h, les informés. Olivier Delagarde.
Et on ne se dissipe pas, les informés. Je vous voyais là réagir à propos de ces ours qu'on réintroduit dans les Pyrénées. C'est pas ça dont on parle. On marquait, ça aurait pu être une idée. Mais en ce jour qui marque le premier anniversaire de l'affaire Weinstein, le prix Nobel de la paix a été décerné au médecin congolais Denis Mukwege et à la yazidi Nadia Mourad. Alors le premier est un gynécologue, il s'est fait une spécialité d'opérer les femmes victimes de violences sexuelles. La seconde est une ex-esclave des djihadistes, elle a 25 ans, et elle est devenue en quelque sorte la porte-parole des femmes abusées et employées comme arme de guerre. Alors je vous propose d'écouter d'abord la réaction de Denis Mukwege qui a appris la nouvelle à la sortie de son hôpital de fortune à Bukavu en RDC.
C'est un grand jour, le grand jour des femmes congolaises. Je voudrais dire que nous acceptons ce prix au nom de toutes les femmes qui ont fait face aux difficultés, qui ont connu des problèmes terribles. Vous avez été victime de pillages, de viols.
Quand il y a Bayem, il y a Mbayo, Prix Nobel, on est parti à
C'est à votre nom que nous acceptons ce prix Nobel qui vient de nous être décerné aujourd'hui.
Voilà, Denis Mukwege, pardon pour la mauvaise qualité sonore de l'enregistrement. Hamda Mostafavi, bon choix de la part du Nobel ?
Oui, ben on se demandait justement à l'instant quel était l'impact du mouvement MeToo. On peut se dire que ça, c'est quand même parce que les violences sexuelles, ça ne date pas d'hier, pour le coup, et qu'aujourd'hui, ça soit honoré et mis en lumière devant le monde entier. Le travail de Denis Mukwege, ça fait quand même 20 ans qu'il le fait. C'est pas la première fois qu'on entend parler de lui. C'est quelqu'un qui agit énormément, qui parle beaucoup des violences, surtout en RDC, qui sont pas toujours très très connues. Nadia Mourad, c'est une rescapée de Daesh qui fait connaître le combat des familles Zidi, mais le combat des familles Zidi, ça fait 4 ans qu'on en parle, et que ce soit honoré aujourd'hui, pour moi, ça a aussi une résonance par rapport au mouvement MeToo et par rapport à cette reconnaissance mondiale des violences faites aux femmes.
Jackie Isabello.
Ce que fait M. Mukwege, c'est un type admirable. Je veux dire, il a échappé à 6 attentats. Ça faisait plusieurs fois qu'on l'avait renvoyé à ses chères études, et Dieu sait qu'il aurait dû l'avoir bien avant. C'est ce côté un peu trop politique du comité Nobel, moi, qui m'agace un peu. Hein, vous avez vu que sur l'aspect littérature... il faut pas qu'il fasse un coup, parce que Mukwege, eh bien, une année, on lui a sans doute pas donné, parce que Barack Obama a eu le prix Nobel de la paix. Très honnêtement, on va pas ouvrir un autre débat, mais ce médecin est absolument admirable, et on se rend pas compte de l'atrocité. Il y a Florent Pfeffer, qui est un ancien journaliste d'ITélé, qui a enquêté là-bas. Et je vais pas citer, mais il a raconté des trucs. Demandez comment c'est possible.
Abominable.
Je conclurai là-dessus.
Choisis Kemener. Est-ce que le comité Nobel fait pas un coup avec cette en décernant ce double prix Nobel de la paix?
Je veux dire, quelque part, on s'en fiche que ce soit un coup ou pas un coup. Moi, je laisse ça de côté. C'est-à-dire que c'est effectivement le travail de cet homme. Alors, c'est quelqu'un qui avait été reçu par François Hollande. Pourquoi? Parce qu'il est proche du père de Julie Gayet, un chirurgien lui aussi, même s'il opère pas du tout sur le même genre de choses. Et donc, c'est quelqu'un dont le travail a déjà été reconnu en France. Il y a eu un film, il y a eu un documentaire sur son travail. Il fait des choses extraordinaires.
Le médecin qui répare les femmes,
il répare parfois des fillettes. Enfin, c'est épouvantable, parce que ce à quoi il est confronté chaque jour est épouvantable.
Bon. Là, c'est bon à prendre.
C'est bon à prendre, ouais. Oui. Alors effectivement, ça aurait certainement dû être avant. Oui, alors dans une révolution, c'est toujours comme ça. C'est-à-dire la révolution MeToo, la révolution en France, ça a été balance ton porc. Il y a eu des excès. On a eu tendance à voir derrière chaque homme un prédateur en puissance. Et puis il y a des bonnes choses. C'est-à-dire que là, ce prix Nobel et le fait que le travail de cet homme soit... peut-être que grâce à ça, il aura des subventions pour son hôpital de Pandy. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se débloquer. Donc finalement, moi, je prends.
Laissez-moi avoir mauvais esprit. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté aussi de la part du comité Nobel de faire aussi un peu oublier peut-être les turpitudes qui ont fait exploser l'Académie suédoise, qui décerne le prix Nobel de littérature, hein, rappelons qu'un Français, Jean-Claude Arnaud, marié à une académicienne et qui entretenait des liens étroits avec le jury des Nobel, a été condamné à 2 ans de prison pour viol. L'affaire a tellement ébranlé l'institution qu'il n'y aura pas de Nobel de littérature. Aziz Seni.
Écoutez, moi, ce que je vois dans le calendrier, c'est effectivement un coup, mais le Nobel a aussi besoin de faire parler de lui et de dire qu'il existe et de continuer à faire vivre cette institution. Je trouve pas ça malsain, et je trouve ça plutôt correct et presque normal. Ça permet quand même aussi de remettre un éclairage sur les conditions féminines et la condition des femmes dans un certain nombre de pays. Tout à l'heure, on parlait de la condition des femmes en France, en Europe. Il faut vraiment reprendre conscience que dans certains coins du monde, c'est encore bien pire et qu'on est encore bien loin de ce qu'on peut vivre effectivement en Europe.
Et que l'affaire Weinstein n'a pas fait bouger tellement les choses en RDC. Hein.
Oui, pas beaucoup bouger les choses, mais... Au moins, ce prix Nobel permet peut-être aussi à l'opinion publique européenne de reprendre conscience d'un certain nombre de choses qui peuvent se passer en Afrique, en Asie, en Amérique du Sud, et dont on semble parfois très très loin en matière, par exemple, de traitement des femmes. Il y a encore un combat aussi à mener, aussi avec ces pays-là.
Madame Mostafa.
Oui, surtout que le combat est loin d'être terminé, parce qu'il y a un peu quand même eu un mouvement... une sorte de résultat un peu négatif de ce mouvement MeToo, c'est ce qu'on appelle le backlash, c'est-à-dire le retour de bâton, qui est quand même aussi l'émergence des hommes politiques. On a appelé ça un peu de manière comique le retour des machos, mais la réalité, c'est que un Duterte aux Philippines, un Donald Trump aux États-Unis, là au Brésil, dont l'élection est dimanche, il peut y avoir un type d'extrême droite qui s'appelle Jair Bolsonaro, qui est très antifa, misogyne ouvertement. Ces hommes-là aussi ont profitent de ce mouvement pour capitaliser là-dessus en disant l'homme blanc est agressé de toutes parts.
Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une fracture planétaire avec d'un côté le monde MeToo où les choses quand même peu ou prou s'arrangent pour les femmes et puis une autre partie du monde qui est sans doute majoritaire où les choses s'arrangent pas du tout.
C'est pas que les choses s'arrangent pas du tout, mais c'est que forcément, quand on ébranle, quand il y a une révolution, quand on ébranle quelque chose, on ébranle aussi des gens, on ébranle aussi un système. Il y a forcément des gens qui, dans leurs valeurs, se sentent ébranlés par le mouvement MeToo. Mais ça veut pas dire que la révolution ne peut pas être faite, mais ça veut dire aussi qu'il faut prendre en compte que les avancées se font lentement et qu'il faut rester sur ses gardes, même s'il y a beaucoup d'avancées.
Ça permet de mettre en valeur des fondements qui étaient des fondements atrocement phallocrates. Vous savez, quand vous secouez un immeuble, vous vous apercevez sur quel type de fondation vous êtes construit.
Et je ne secoue jamais d'immeuble.
En secouant eh bien, cette relation entre les hommes et les femmes et des règles qui semblaient convenir à beaucoup de gens, bien, on s'aperçoit que certaines sociétés regimbent et puis elles disent eh bien, nous, on est encore installés sur des valeurs extrêmement masculines, extrêmement phallocrates. Monsieur Trump en fait partie.
On va en parler dans un instant.
Et puis ça permet de distinguer que ces gens-là sont en opposition par rapport à ces gens qui n'ont rien à se reprocher et qui sont très contents que les choses se rééquilibrent. Donc, en faisant bouger, eh bien, on s'aperçoit de ça. Juste pour faire encore la mauvaise tête. Pour M. Mukwege, c'est une mauvaise nouvelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas refaire le passé, mais il aurait dû l'avoir avant parce que ce type-là ne mérite pas d'être noyé dans la masse. Nobel, il est là pour de temps en temps asseoir des coups, non pas médiatiques, mais des coups politiques et géopolitiques pour que ça lui serve. Si jamais on distingue toute une série de gens qui aident les femmes et que lui est au milieu de ça, alors que son combat est tout autre, eh bien, demain, on s'en rappellera pas. Et vous verrez, comme quand il a eu le prix Sakharov, il va recevoir 10 000 balles de subvention pour son hôpital, on va lui serrer la main et il repartira tout seul avec sa petite trousse et avec son aiguille. C'est un peu plus que 10 000 balles, ça doit être 400 000 euros, quelque chose comme ça. Bon, c'est pas comme ça qu'il va sauter, c'est
son thème de milliers de femmes. Il est 20h20 sur France Info, c'est l'heure de l'info, Mélanie Pépin.
Depuis 20 ans, il répare les femmes victimes de sévices sexuels dans le Sud Kivu. Le gynécologue congolais Denis Mukwege a reçu le prix Nobel de la paix. Il le partage avec la Yazidi Nadia Mourad, ancienne esclave sexuelle du groupe État islamique. L'Académie récompense ainsi deux héros qui luttent contre ces violences sexuelles utilisées comme armes de guerre. 6 heures d'audition devant le juge. Jean-Marc Reiser continue de nier. Il n'a rien à voir avec la disparition de Sophie Le Tan près de Strasbourg, la jeune étudiante introuvable depuis près d'un mois. Casino veut céder 20 de ses hypermarchés géants sur 110 en France, mais la direction promet qu'il n'y aura pas de fermeture, pas de plan social, pas de calendrier non plus indiqué. Le groupe, écrasé par une dette de 4 milliards d'euros, dit étudier toutes les options. Où est passé le patron d'Interpol ? Une enquête pour disparition inquiétante est ouverte en France. Le président chinois de l'Organisation internationale des polices, basée à Lyon, a disparu depuis 6 jours, depuis qu'il s'est rendu en Chine. La France se dit préoccupée. Et puis attention aux orages ce soir et cette nuit en Haute-Corse. Le département est en alerte orange jusqu'à demain 16h. De fortes précipitations attendues, ainsi que de la grêle et des rafales de vent.
France Info. 20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Et merci à vous, Mélodie Pépin, que je m'obstine à appeler Mélanie. Je ne sais pas pourquoi les Mélodies, j'ai du mal. La cause des femmes progresse-t-elle partout un an après le début de l'affaire Weinstein? On en débat ce soir dans les informés. On peut se poser la question, en tout cas, aux États-Unis, depuis quelques semaines. Une affaire défraie la chronique, celle de la nomination de Brett Kavanaugh à la Cour suprême. Ce juge conservateur, choisi par Donald Trump, a effectivement été accusé le mois dernier d'agression sexuelle par plusieurs femmes. Accusation, démenti solennel, cette affaire a tenu en haleine le téléspectateur américain et on se demandait si le Sénat approuverait finalement cette nomination. Eh bien, la réponse est intervenue tout à l'heure. Écoutez, et en plus, on va vous faire réviser votre anglais.
On this vote, the yeas are 51, the noes are 49, the motion is agreed to.
La présidente de la séance au Sénat américain qui a fait claquer son marteau, 51 voix pour, 49 voix contre. Sozik Kemener, c'est un camouflet pour les femmes américaines.
Il y avait un mouvement très intéressant autour de cette affaire, c'est ces femmes qui disaient « Pourquoi je n'ai rien dit ?» Vous savez, comme la personne qui accuse aujourd'hui Sukhanouk. Et donc, je suis pas sûre effectivement que ça fasse avancer la cause des femmes. En revanche, ce qui est sûr, c'est que ça a permis une autre forme de libération de la parole, cette histoire. Alors là, on a le résultat
Alors, c'est pas fait encore pour lui, très compliqué aux États-Unis.
Mais le résultat d'aujourd'hui... Mais moi, ce qui m'a intéressé, c'est ce qui s'est passé, ces femmes qui reconnaissaient à une personne qui avait été agressée le droit de ne rien dire et qui comprenait l'explication et qui avançait l'explication pourquoi elle n'a rien dit, pourquoi c'est dur de dire, pourquoi finalement le mouvement MeToo ça suffit pas, parce que MeToo ça peut être une génération qui dit bah voilà je parle et puis il y en a une autre qui parle toujours pas. C'est pas si simple que ça MeToo, c'est une révolution, on l'a dit, c'est très lent, c'est à plusieurs tiroirs et donc ça on a ouvert un autre tiroir, je trouve.
Adam Mostafavi, la décision du Sénat américain est compréhensible, sachant qu'en plus c'est un démocrate qui a fait basculer le vote du Sénat. Hein.
Oui, après, aux États-Unis, malheureusement, tout est très polarisé. Donc, un démocrate fait flancher, là où un républicain s'oppose. Il y a beaucoup de calculs politiques.
Mais vous êtes scandalisé par, en tout cas, ce vote et ce Brett Kavanaugh qui s'approche de la Cour suprême?
Heureusement, ce n'est pas en France, mais c'est difficile de ne pas être que scandalisé. Enfin, on se dit qu'à un moment où... Le problème, c'est que les votes à la Cour suprême ont une incidence très très longue et on sait que à une époque, un jugement comme Roe versus Wade qui a permis l'avortement aux États-Unis a permis...
Mais donc la présomption d'innocence... Là,
oui,
on
mais
oublie,
excusez-moi. Non, mais il y a eu quand même, d'accord, la présomption d'innocence, mais à partir du moment où on décide de faire, où le FBI décide de faire une enquête et où cette enquête est bâclée en 3 jours sans pouvoir interroger tous les témoins de l'époque, on n'est pas coupable, mais c'est quand même un peu problématique.
Jacques Isabello.
Mais vous avez suscité la bonne réaction, c'est-à-dire que ce qui
je
devrait
sais pas si c'est la bonne, je,
nous
moi, je,
scandaliser,
je...
c'est quand on connaît le parcours de Monsieur Kavanaugh et quand on sait quelles sont ses idées, eh bien là, ça doit nous affoler parce que c'est quelqu'un qui lui pourrait véritablement remettre en question ce qui sont des fondamentaux pour nous.
Il y a deux choses. Il y a ses idées d'un côté. Et ensuite,
est-ce que le FBI a fait une enquête et moi j'ai pas d'éléments suffisants pour voir si le FBI a bâclé cette enquête. On a vu que son ancien patron s'était opposé à Donald Trump. C'est une vieille institution. Donc j'aurais plutôt tendance à leur faire confiance. Mais en revanche, de savoir que quelqu'un comme ça pourrait demain être celui qui pourrait voir interdire à nouveau l'avortement, alors moi, ça m'éduse par contre. Ça. Et ce type-là est quand même proposé. Donc on en est là.
Aziz Sadi.
Bon, absolument rien de surprenant. On a un président... conservateur, qui nomme des gens qui sont sur la même ligne politique que lui. Il a lui-même, Monsieur Trump, quelques casseroles aux fesses, si je puis me permettre, avec quelques affaires, avec quelques femmes qui régulièrement reviennent nous expliquer combien Monsieur Trump n'est pas quelqu'un de galant, de sympa, de courtois, etc. Donc que ses copains qu'il nomme à des postes clés soit de la même trempe, non, c'est pas surprenant. Maintenant, comme dit Jackie Isabello, c'est la question, c'est sur le long terme. C'est un poste où on peut remettre en cause et trancher sur des jugements qui peuvent remettre en cause des fondamentaux de la liberté tels que portés par les États-Unis avec tout ce qui est autour. Donc là, c'est vraiment très grave. Mais est-ce que un président qui a été soutenu par des porte-parole du triple K, etc.
Ouais, mais enfin, il a été élu quand même.
Ah bah oui,
il
a été élu. Et là, il montre une chose, en tout cas, si on fait une analyse politique, c'est qu'il tient encore le Sénat, puisque même sur une commission comme ça, il arrive à faire passer une majorité. Donc, il a d'excellents arguments en coulisses pour pouvoir convaincre un démocrate de voter sur un sujet aussi grave que celui-là.
C'est très grave pour vous, Adam Mostafavi?
C'est très grave, la nomination du juge Brett Kavanaugh. Vous voulez me chercher un petit peu?
Il revient à la charge.
Oui, c'est
vous
très
savez quoi? Après... Je vous cherche et puis je vous reprends parce que on va faire une pause. Écouter la météo, suivre les infos, reprendre des forces. Et on se retrouve dans quelques minutes pour la deuxième partie des Informés. Restez avec nous.
En tant qu'équipementier auto, implanté en Europe de l'Ouest, il nous fallait quelqu'un pour garantir notre niveau d'exigence. C'est l'ingénieur qualité que vous voyez là. C'est une VIE.
N'est-ce pas, Cécile ?
Exact. Grâce au VIE, j'ai pu apporter mon savoir-faire là où on en avait besoin.
Attention, ce montage doit être très serré. Pass auf, die Montage muss ganz fest sein.
Et vous, le volontariat international en entreprise, ça vous parle? Business France accompagne votre développement à l'étranger, du recrutement à la gestion RH. Renseignez-vous au 0810 659 659.
VIE, l'ambition d'aller plus loin.
François est logisticien et client Hyperbureau. Et quand il entre dans la chambre de son fils, il demande toujours
« Mais t'attends quoi pour ranger tout ça ?»
Chez Hyperbureau, nous lui donnons ce petit conseil. « François, vous seriez bien mieux au boulot. Carton, bac, mobilier de rangement, fourniture de bureau. L'entrepôt de François est parfaitement ordonné. »
Hyperbureau.
Hyper pro.
Hyper proche. Restez connectés à France Info.
Toute l'actualité, des alertes, des vidéos avec l'application mobile
France Info.
Élodie Calac à Météo France.
On surveille la Corse. C'est agité ce soir et cette nuit avec des pluies parfois soutenues et orageuses, surtout sur la Haute-Corse. Elles se poursuivront demain, soyez prudents. La pluie arrivera aussi par le nord-ouest. Le matin, il pleuvra bien sur la Bretagne. Ces pluies parfois soutenues et orageuses gagneront la côte aquitaine, le Poitou, le nord-Pas-de-Calais l'après-midi, puis le sud-ouest, le centre, la région parisienne et le nord effaçant les éclaircies. De l'Occitanie vers le massif central, les Ardennes, la façade est, ce sera encore très ensoleillé, un peu plus nuageux près de la Méditerranée et sur les Alpes. Ça soufflera sur le nord-ouest, sur le sud-est également. Les températures, elles, commenceront à baisser sur le nord-ouest. Ça restera chaud ailleurs. Pas plus de 13 degrés à Brest, 17 à Deauville, 19 à La Rochelle. Encore 23 degrés à Paris et à Nice, 27 à Strasbourg, Bourges, Lyon, 28 à Montauban. Dimanche, une ambiance rafraîchie, une moyenne de 18 degrés. Ce sera souvent pluvieux, mais on retrouvera de belles éclaircies près de la Manche.
Pour l'achat de votre appartement neuf, choisissez un appartement certifié NF Habitat. Plus d'infos sur nfhabitat.fr. NF Habitat, c'est mieux, c'est sûr.
20h30 sur France Info.
France Info.
Deux points, ouvrez l'info.
C'est avec Julien Langlais. Bonsoir Julien.
Bonsoir Olivier. Le prix Nobel de la paix a été attribué aujourd'hui à l'ancienne esclave irakienne du groupe État islamique Nadia Mourad et au médecin congolais Denis Mukwege. C'est leurs efforts pour mettre fin à l'emploi des violences en tant qu'arme de guerre qu'a voulu récompenser le comité Nobel à Stockholm. Le docteur soigne au Congo des femmes qui ont été violées ou victimes d'actes de barbarie. À Panzi, là où il réside, protégé en permanence par l'ONU, l'annonce du Nobel a été saluée par des cris de joie. Rema Rukungu travaille avec le docteur depuis 10 ans.
Je crois son engagement. Il est très engagé auprès de femmes, il est très engagé dans ce qu'il fait et puis il est très inspirant aussi. Donc c'est un modèle en fait pour nous les jeunes générations, pour tous ceux qui travaillent avec lui. Il ne fait rien à la légère. Tout ce qu'il le fait, il le fait avec son cœur.
Vous disiez c'est un modèle y compris pour vous?
Exactement, moi dès le départ en fait, dès le début. On essaie tant bien que mal de suivre ses pas. C'est énorme, ça c'est énorme, vraiment c'est énorme. On a beaucoup d'espoir vraiment avec ce prix.
Les gens autour de vous, ils ressentent la même chose?
Non, c'est de l'euphorie, vous ne pouvez pas imaginer. Ah non, je te jure, non, c'est grave quoi. C'est de l'euphorie, beaucoup de joie, que ce soit dans le staff, que je sois dans les malades. C'est tout le monde est vraiment content.
Voilà la joie au Congo après ce prix Nobel de la paix. Jean-Marc Reiser nie toute implication dans la disparition de Sophie Le Tan, l'étudiante disparue le 7 septembre près de Strasbourg alors qu'elle allait visiter un appartement. L'homme de 58 ans mis en examen pour assassinat, enlèvement et séquestration a été entendu pendant plus de 6 heures aujourd'hui par le juge d'instruction. Alexandre Benalla a lui quitté cet après-midi le tribunal de Paris après son premier interrogatoire par les juges d'instruction en charge de l'affaire. L'ancien collaborateur du président est mis en examen pour des violences et soupçonné d'ingérence dans l'action de la police lors des manifestations du 1er mai. Après 5 heures d'audition, il est sorti avec ses avocats sans faire de déclaration. Jean-Marie Le Pen va mieux, hospitalisé depuis une dizaine de jours pour une fièvre persistante. Le cofondateur du FN, âgé de 90 ans, a pu regagner son domicile dans les Hauts-de-Seine aujourd'hui et reprendra ses activités, indique son entourage, à savoir notamment la rédaction du tome 2 de ses mémoires. Le ministre de la Transition écologique l'a confirmé une deuxième ours slovène a bien été héliporté dans les Pyrénées aujourd'hui. Les deux mammifères devraient donner naissance à des petits l'année prochaine, a indiqué l'agence forestière de Slovénie, tandis que sur place, dans le Béarn, de nombreux éleveurs qui ont peur pour leurs bêtes dénoncent une provocation. Et puis Toulouse-Nice en hors d'œuvre de la 9e journée de Ligue 1 de football ce soir. 5 plats de résistance demain, avec Lille-Saint-Etienne notamment, avant le dessert dimanche Paris-Lyon. Les informer tout de suite, Olivier Delagarde.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
C'est la deuxième partie de ces informés, toujours à la radio, toujours à la télé, toujours sur les réseaux sociaux et toujours avec nos quatre invités que je vais vous représenter d'ailleurs. Amdam Mostafavi, rédactrice en chef à Courrier International. Aziz Seni, chef d'entreprise, membre du MEDEF. Soazic Kemener, rédactrice en chef politique à Marianne. Et Jackie Isabello, communicant, cofondateur de l'agence Coriolink. Dieu que c'était beau à la télé ce matin. Les Invalides, l'admirable architecture de Mansart sous un ciel bleu parisien sans nuages, la garde républicaine, ses soldats, ses capitaines, le cercueil de Charles Aznavour sous un drapeau bleu, blanc, rouge et un discours d'Emmanuel Macron à faire pleurer à gros bouillons. Écoutez d'ailleurs.
Ces chansons ne furent jamais ces rengaines d'un été qui amuse et qu'on oublie. Elles furent pour des millions de personnes, un baume, un remède, un réconfort. C'est ce compagnon de route qui nous quitte, ce conteur fraternel qui chantait à hauteur d'homme la vérité de nos existences, prenant sa part des peines ordinaires, des deuils du quotidien et du temps qui passe.
Voilà, c'était donc ce matin aux Invalides un hommage national, ça personne ne le conteste, mais est-ce que Charles Aznavour était bien à sa place aux Invalides, Aziz Seni?
Écoutez, moi j'ai pas d'avis la réalité sur le sujet. Ce que je veux dire, c'est que je pense que les Français aimaient ce chanteur, qu'il représentait un certain nombre de choses, l'immigré arrivé, la réussite, une forme d'intégration sociale, etc. Mais qu'on l'enterre aux Invalides, à Montmartre ou ailleurs, je pense que c'est pas le sujet en ce moment des Français.
Non, enfin, peut-être, voilà. Mais enfin, moi, c'est la question que je vous pose, Jacques Isabello.
Moi, je trouve que c'est une excellente idée, Olivier. Charles Aznavour, c'est certes un grand chanteur, hein, Paris à mois d'août, c'est sympa, mais Paris au mois d'octobre, c'est sympa aussi, mais c'est surtout un symbole politique. C'est quand même quelqu'un qui a mobilisé une classe d'artistes quand, dans son pays, des gens sont morts suite à ce tremblement de terre. Il portait des valeurs républicaines, l'intégration, la langue, la force de la langue, et puis c'était un personnage politique. Donc à ce titre-là, comme il avait une importance politique pour notre République, eh bien, je trouve ça normal, parce qu'il n'y a pas que les militaires qui sont distingués.
Donc il fallait lui faire un hommage politique.
Aux Invalides, eh bien, c'est bien que Charles Aznavour, qui allait accompagner le président de la République en Arménie, hein, eh bien, c'est bien que Charles Aznavour ait été distingué aux Invalides, et en plus, a quand même été une grande voix de la reconnaissance du génocide des Arméniens, quand même une période triste de l'histoire du monde. Donc moi, je suis totalement en désaccord avec vous.
Soazic Kemener. Ah, moi, j'ai pas d'avis sur la question.
Je vais vous décevoir. Jean d'Ormesson aux Invalides, ça vous choque pas?
Voilà, c'est ça.
Là, qu'est-ce qu'on a magnifié aujourd'hui dans un très beau discours, il faut le reconnaître, qui a été prononcé aujourd'hui, écrit par Sylvain Faure, qui est une très bonne plume. C'était un beau discours, et on magnifiait quoi? La langue française. Et c'est ça qui était joli. C'était un discours qui expliquait les subtilités de la langue, l'importance de la langue, la défense de la francophonie. Si ça n'a pas sa place dans un lieu comme les Invalides, qu'est-ce qu'on y met? Donc moi, ça m'a pas choqué. J'ai trouvé que c'était plutôt un événement de bonne tenue. Et d'ailleurs, de très bonne tenue, mais quand on regarde Aznavour, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait accepté d'avoir une statue de son vivant. Donc je pense que les Invalides, c'est pas démesuré pour quelqu'un qui accepte d'avoir une statue de son vivant, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une déconnexion totale. Vous m'auriez dit Johnny Hallyday aux Invalides, là je me serais dit il y a un problème, mais là,
il y avait un problème.
Mais c'était moins logique, en tout cas que là pour Charles Aznavour qui a quelque chose de très institutionnel en fait.
Amdam Mostafavi, est-ce que vous allez voler à mon secours et dire qu'il y avait peut-être un autre type de cérémonie à inventer pour quelqu'un d'ailleurs de la qualité de Charles Aznavour?
Contre toute attente, je vais voler à votre secours. Mais oui, je pense qu'on aurait pu inventer quelque
vous
chose.
Vous allez revenir aux informés.
Parce que nous, on est virés. Je pense qu'en tout cas, on aurait pu. C'est vrai que après moi personnellement, j'étais plus touchée par l'hommage à Johnny parce qu'il y avait quelque chose de très collectif et de très populaire. Là aussi, évidemment, il y avait beaucoup de gens et tout. Mais c'est vrai que là, ça c'est quelque chose de très solennel et que pour un artiste, ça perd un peu de son caractère chaleureux. Voilà, c'est ça. Ça perd un peu de son caractère émouvant, chaleureux. Qu'on retrouve normalement chez les artistes en enfermant ça dans quelque chose. Et puis en plus, les Invalides, c'est quand même, je trouve, pour moi, associé à des événements très durs, les attentats, les policiers tués dans le cadre de leurs fonctions, les soldats tués au Mali. C'est des événements qui ont une autre portée,
c'est pas la fin de vie d'un artiste
qu'on a tous aimé.
Qui a eu 94 ans, qui a eu une vie formidable, qui a fait chanter des tas de Français.
Mais c'était aussi un artiste qui. Mais je rejoins totalement. Il devait aller cette semaine avec le président de la République au sommet de la francophonie à Erevan. C'était quand même quelqu'un qui avait cette place-là dans le dispositif français, dans les relations avec l'Arménie.
C'est pas un hasard
si on avait aujourd'hui le Premier ministre d'Arménie qui était présent.
Donc on faisait de la politique.
C'était de la politique, bon, c'était très politique.
Alors, Sonic Kemer, est-ce que c'est pas dommage de transformer l'hommage national d'un chanteur populaire en un événement politique?
Mais c'était un événement politique et c'était aussi autre chose. Il y avait aussi, vous avez des images derrière vous, alors que les personnes, oui, non, mais vous y arriverez pas, que les personnes qui écoutent la radio ne voient pas, mais il y avait un écran géant devant les Invalides, à côté des boulets de canon, plus précisément, avec un hommage, avec des personnes.
Et puis il y a des concerts aux Invalides. Le gouverneur militaire de Paris organise.
Oui, enfin, c'est quelque chose qui porte le sang,
de manière très triviale. Et c'est une dimension artistique qu'on sous-estime.
C'est un artiste, immense artiste. C'est les paillettes, c'est la légèreté, même si la littérature, même si la langue française, même si porté très haut et fort, c'est une forme d'ambassadeur francophone, ambassadeur de la culture, de la grandeur de la France finalement. Mais c'est vrai que l'institutionnaliser, le rentrer dans cette petite case que je trouve froide, que je trouve dans un contexte... On est tous des observateurs de la vie politique.
Je vous ai convaincu.
Non, c'est pas ça. C'est que j'ai commencé par dire que, à mon avis, les Français au petit déjeuner, à dîner ou au bistrot du coin ne se posent pas de la question de savoir s'il fallait le faire aux Invalides ou à Montmartre. Mais
c'est se poser des questions auxquelles les Français ne pensent pas forcément.
Tout à fait.
Il est 20h40
sur
France Info.
Sur un point, c'est que c'est
utile. Il est 20h40 sur France Info.
Merci.
C'est l'heure de l'info avec Mélodie Pépin.
Elle est morte à 73 ans dans un couloir des urgences du CHU de Reims en mars dernier. Un rapport d'expertise que s'est procuré France Info pointe de sérieux manquements de la part de l'hôpital. Aucun accueil, aucune prise des constantes, des défaillances qui constituent une perte de chance de survie, précise ce rapport. À Marseille, le siège de SOS Méditerranée envahi par une vingtaine de militants d'extrême droite pendant quelques minutes. Ils ont été interpellés et placés en garde à vue. L'ONG qui affrète l'Aquarius, jugé complice du trafic des êtres humains selon le groupuscule Génération Identitaire. Demain, on saura si le juge Brett Kavanaugh, accusé d'agression sexuelle, sera nommé à vie à la Cour suprême des États-Unis. Dernière étape, aujourd'hui le Sénat a donné son feu vert. Le candidat très conservateur est soutenu depuis le début par Donald Trump. Nouveau coup dur pour Toyota, le constructeur japonais rappelle 2 400 000 voitures hybrides. Elles peuvent s'arrêter inopinément, mettant en danger le conducteur. Un problème de logiciel. 38 000 voitures affectées en France, principalement des modèles Prius, fabriqués entre 2008 et 2014. Et puis dans un peu moins de 5 minutes, le coup d'envoi de la 9e journée de Ligue 1 de football. Toulouse reçoit Nice.
France Info.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Allez, intéressons-nous à la politique et à cette décision presque prise par Benoît Hamon. L'ex-candidat socialiste à la présidentielle devrait se lancer dans la bataille des européennes. Il devrait être tête d'une liste portée par son courant, Génération.S. Une liste de plus, donc, en plus de la ligne de la liste socialiste, en plus de la ligne de la liste, décidément, Europe Écologie Les Verts, menée par Yannick Jadot, en plus d'une liste insoumise, en plus d'une possible liste des communistes. communiste. Benoît Hamon était l'invité de Jean-Jérôme Bertolu ce soir sur France Info. Alors, il ne l'a pas confirmé, mais enfin, il n'a vraiment pas fermé la porte. Écoutez.
Je confirme aujourd'hui qu'en tout cas, les thèmes que je portais à la présidentielle, qui avaient été pour partie moqués, sont des thèmes qui se sont enracinés. La place du numérique qui remplace les hommes et qui explique, qui aujourd'hui nous amène à réfléchir à ce qui va devenir le travail et comment on finance notre protection sociale, la question de la transition écologique, la question du revenu universel, tout ça s'enracine. Donc oui, j'ai dit que je m'engagerais dans cette bataille. Mais d'abord, je veux m'inscrire dans un rassemblement.
Daïkodouit.
En tout cas, rassurez-vous, je ne serai pas absent de cette bataille.
Benoît Hamon, sur France Info, Jackie Isabello, Benoît Hamon aura raison d'y aller.
Je vais reprendre ce qu'a dit Aziz Seni. Je suis pas persuadé, alors pour le coup, que les Français soient fascinés par l'avenir de Benoît Hamon. C'est une boutade. Alors, c'est assez bon. Il faut quand même dire à Benoît Hamon, si je peux me permettre, mais c'est comme médecin et malade. C'est pas parce qu'il y a revenu universel que revenu universel de Benoît Hamon et revenu universel d'activité d'Emmanuel Macron. C'est pas du tout la même chose, en fait, hein. Philosophiquement, c'est même une antithèse. Donc je crois que de ce point de vue-là, il se tombe après sur les autres sujets qui les portent. Bon, la gauche, elle a quand même un grave problème. Vous savez, il y a un intellectuel américain qui est prof à Columbia, qui s'appelle Mark Lilla, qui vient de sortir un bouquin pour dire, certes, Trump a été élu.
Comme François Héritier, Jacques Lilla.
Mais la gauche est devenue aux États-Unis une gauche identitaire. Et il nous a dit, vous les Européens, vous courez le risque d'avoir une gauche identitaire. Pour faire simple, c'est une gauche qui ne porte plus le bien commun, mais qui s'intéresse à des micro-cibles, chacun dans son coin, et une gauche qui est obsédée par l'identitarisme ou l'identitaire et l'essentialisme. Et ça ne fait pas un projet politique. Et cette gauche, elle est en train d'exploser façon puzzle. Et je suis pas persuadé que Emmanuel Morel d'un côté, Benoît Hamon de l'autre...
Pour un sujet qui n'intéresse personne, je vous trouve bien bavard. Sois-y, Kébéder.
Eh bien, je conclue, donc.
L'électeur de gauche risque quand même de pas vraiment s'y retrouver et d'être paumé. Totalement désarçonné dans cette division XXL. Quoi.
Oui, parce qu'en plus, vous avez oublié une liste. C'est la liste que veut monter l'intellectuel, le philosophe Raphaël Glucksmann. Alors, pour l'instant, on est encore
mais c'est parce que ça n'intéresse personne.
Mais ça fera encore une liste. Donc, toute la difficulté... Benoît Hamon avait un vrai coup à réussir, à jouer, c'est s'il réussissait à s'allier avec Yannick Jadot, parce qu'il parlait de la transition écologique. Ça avait un vrai sens.
Ça aurait eu un vrai sens
politique de le faire là pour les Européennes où on sait que les questions environnementales sont traditionnellement en avant. On se souvient de l'excellent score qu'avait fait au moment de sa création Europe Écologie Les Verts lors des Européennes. Donc c'était pour eux, c'était un scrutin pour eux. Et s'ils n'y arrivent pas, même à l'occasion précisément de ce scrutin-là, c'est pas gagné effectivement. Donc là, qu'est-ce qu'il va faire Benoît Hamon? Il va être tête de liste. Pourquoi? Parce qu'il a personne d'autre, parce que c'est un tout petit mouvement qui est en train de se créer, il n'y a personne d'identifié, donc il ne va pas avoir le choix. Il va devoir être tête de liste et il risque de s'abîmer avec un mauvais score. Vous allez me dire, ça lui est déjà arrivé pour la présidentielle. On rappelle, 6,3% des voix au premier tour de la présidentielle. La dernière fois, c'était il n'y a pas si longtemps.
Et on ne sait toujours pas ce que fera le PS en plus. C'est quand même la question principale.
Bah, d'ailleurs Pierre Moscovici a dit qu'il n'irait pas. Aziz, c'est lui, la candidature de Benoît Hamon, ça vous intéresse?
Ah oui, ça m'intéresse énormément. Je suis tout emballé. Je suis comme tous ces Français qui n'attendaient que ça.
On est
vraiment heureux, on attend son annonce avec impatience, on est dans le renouvellement, on est dans une équipe qui gagne, on a un projet. Quand on sait que les mêmes méthodes, les mêmes process produisent les mêmes effets, moi je pense que c'est une équipe de gagnants qui est en train d'être montée et je me félicite de ça.
Ce que je veux dire, c'est que... N'y aurait-il pas un petit brin d'ironie dans ce que vous
êtes
en train de
dire? Pas du tout, il a fait 6,5 à la présidentielle. Je pense que s'il fait 6,5 aux européennes, ce sera un miracle, mais il n'a pas tiré les leçons de ce qui s'est passé.
Pour vous, il n'y a pas de courant derrière Benoît Hamon, il ne représente rien en termes d'idées, en termes de courant de pensée.
Non, je dis de là à dire.
Est-ce que c'est ça la question.
Est-ce qu'il représente quelque chose? Oui. Est-ce qu'il représente quelque chose de très minoritaire? Je pense. Est-ce qu'il représente quelque chose qui va aller se casser la figure contre un mur? Je pense que oui. Est-ce qu'il représente l'avenir? Je ne pense pas. Est-ce qu'il représente quelque chose de fondamentalement portant quelque chose, un changement profond, une idéologie de la gauche? J'ai l'impression, par exemple, que les Français qui votent à gauche, qui sont très sensibles à cette idéologie-là, ont plus d'accroche dans un discours de mélange. Mélenchon ou même chez les Verts qu'ils ne peuvent en trouver chez Monsieur Hamon. Enfin, c'est un sentiment peut-être qui est, à mon avis, partagé.
Madame Mostafavi.
Je vais pas être d'accord avec mes camarades sur ce point-là, parce que déjà, je pense que Benoît Hamon, déjà, on n'est pas du tout dans les mêmes circonstances que la présidentielle. On va être 2 ans après. On va être dans des circonstances où la France a connu 2 ans sous le régime d'Emmanuel Macron, qui a quand même privilégié certaines couches de la société par rapport à d'autres. Et là, le discours de Benoît Hamon, pour moi, est plus audible aujourd'hui qu'il ne l'était il y a 1 an et demi. Donc, c'est pas complètement fini. Et ensuite, au niveau de la gauche, c'est sûr que là, la gauche aujourd'hui est très divisée. Mais en même temps, il faut, ce débat d'idées est salutaire. Il faut que des mouvements émergent. Il faut qu'il y ait un peu de débat d'idées maintenant pour qu'on ait un espoir d'avoir une gauche dans 3 ans, pour qu'elle puisse se reconstruire et que chacun puisse s'aligner. Si aujourd'hui, Benoît Hamon, de
alors
toute façon...
Alors, la stupeur d'Aziz Sénine.
quand j'ai entendu la gauche se recomposer, je ne sais pas, tout de suite, j'ai eu l'image de François Hollande qui se prépare. C'est pour ça que...
non, mais là, aujourd'hui... Et après, personnellement, Benoît Hamon, de toute façon, s'il ne se présente pas aux Européennes, qu'est-ce qu'il va faire? Enfin, je veux dire, c'est son seul espace, d'existence. S'il a une prétention quelconque, que ce soit au niveau international ou au niveau national, il faut qu'il se présente. De toute façon, on ne peut pas tellement blâmer.
Je peux revenir sur ce que disait Soizic tout à l'heure. Certes, il a essayé de s'associer à Yannick Jadot, mais le vrai coup formidable qu'il aurait dû faire et qu'il devrait se forcer à faire, c'est de trouver un moyen de s'associer avec Jean-Luc Mélenchon. Exactement. Alors, il n'a fait que 6,5% et il reproche à Jean-Luc Mélenchon d'être peu trop porteur d'un négo surdimensionné.
Si vous aviez vu le regard de Soizic qui m'énerve au rien, vous dites, vous n'y connaissez rien. Expliquez-lui.
Grand dialogue de cinéma des années 60, quand le type d'1m80 parle, le type d'1m60 écoute. Et quand on a fait 6,5% et quelqu'un d'autre a fait 18%, il a un peu plus d'ego et il a une part de voix supérieure. Donc pour la gauche, cette association aurait du sens et elle ne se fera jamais.
La politique, c'est du odiat, toujours.
Non, mais la politique, c'est du odiat.
C'est non, mais oui, quand on a un type de 60 kilos, c'est du odia.
On a vu, ils ont
essayé... Vous êtes totalement déboussolé, là.
Vous m'avez déboussolé, bon. Voilà, je vous le dis.
Reprenez expliquez-lui pourquoi une alliance, vous avez 30 secondes, pourquoi une alliance Jean-Luc Mélenchon, Benoît Hamon est impossible.
Alors, problème personnel, ils ont déjà essayé pendant la campagne, ça n'a pas fonctionné. Grand 2, ils ont des vraies divergences idéologiques que je serais ravie de dévoiler après ce...
Toujours dans le odia, pourtant un Mélenchon qui marche, qui va toujours plus loin qu'un Hamon assis, hein.
Et ça, c'est pas du Audiard, c'est du Aziz Sénine. C'est bien les informés que vous écoutez. Il est pratiquement 20h50. Mélodie Pépin nous a rejoint pour l'info.
Sur France Info, Benoît Hamon demande solennellement que la France donne son pavillon à l'Aquarius. Le fondateur de Génération assure son soutien à SOS Méditerranée, l'ONG qui est à ses yeux l'honneur de l'Europe et de la France. L'ONG prise pour cible par des militants d'extrême droite cet après-midi qui ont envahi le siège à Marseille. Jean-Marc Reiser continue de nier, interrogé pendant 6 heures par le juge d'instruction. Il dément être impliqué dans la disparition de Sophie Le Tan près de Strasbourg. La jeune étudiante reste introuvable depuis près d'un mois. Épuisé, en très mauvais état de santé, Oleg Sentsov met fin à sa grève de la faim après presque 5 mois de lutte. Le cinéaste ukrainien refuse d'être nourri de force, détenu en Russie pour terrorisme. Il remercie tous ceux qui l'ont soutenu. Le prix Nobel de la paix remis à 2 héros qui luttent contre les violences sexuelles utilisées comme armes de guerre. Le gynécologue congolais Denis Mukwege, qui vient en aide aux femmes victimes de viols dans la région du Sud Kivu. Et la yazidi Nadia Mourad, ancienne esclave du groupe État islamique, devenue ambassadrice de l'ONU. Et puis le malaise grandit autour de Cristiano Ronaldo, la star de foot accusée d'abus sexuels. Malaise et effet immédiat en bourse. Le titre du club de la Juventus a plongé de 10%.
France Info.
20h, 21h, les informés, Olivier Delagarde.
Allez, dernier thème avant d'aller se coucher, oui, parce que quand on participe aux informés, il faut beaucoup de sommeil, ça fatigue. Je voudrais que l'on revienne sur la petite phrase d'Emmanuel Macron qui hier discutait comme ça avec des habitants à Colombey-les-Deux-Églises. Écoutez.
Le petit-fils du général, tout à l'heure, en me faisant visiter la boisserie, oui. M'a dit, on pouvait parler très librement, la seule chose qu'on n'avait pas le droit de faire, c'est se plaindre.
Ah bon?
Eh bien, je trouve que c'était une bonne pratique qu'avait le général.
Oui.
Vous savez, le pays se tiendrait autrement, ce n'était comme ça. Vrai.
Alors la France se porterait autrement si les Français se plaignaient moins. On est vraiment trop râleur, Aziz Sali?
Est-ce qu'on est trop râleur? Oui, mais quand on a mal, c'est normal de pouvoir exprimer sa douleur. Donc je trouve que c'est plutôt bon signe pour une démocratie de pouvoir dire que ça va mal et d'exposer, de mettre sur la table ce qui ne va mal. Je trouve que effectivement, depuis l'après-guerre, on a peut-être oublié ce que c'était la guerre, ce que c'était la faim, et que c'est bien aussi quand on voyage de pouvoir se comparer avec le reste de la population mondiale et de prendre conscience de la chance que l'on a. Il y a des efforts à faire, les Français les font, mais je pense aussi que on doit leur demander des efforts, mais les efforts doivent venir aussi d'en haut. Demander à des gens de faire des économies, de se serrer un petit peu la ceinture, c'est bien, mais il y a des trains de vie au sommet de l'État sur lesquels on pourrait aussi longuement discuter. Et c'est peut-être ce sentiment...
C'est-à-dire que c'est une bonne remarque, mais pas quand elle est faite par le président de la République.
Non, sur le fond, je suis d'accord avec lui. Sur la forme, je pense que il y a un sentiment d'injustice parfois des Français à qui on demande un petit peu trop d'efforts. Je parle des chefs d'entreprise, des salariés. Et puis quand on regarde la manière dont est géré l'État, on se dit, eux, ils en profitent un petit peu, serrer la ceinture, c'est toujours pour les mêmes. Donc, oui, on est des râleurs, on est quand même le premier pays consommateur, premier pays européen consommateur d'antidépresseurs. Oui. Donc il y a des tas de choses sur le fond sur lesquelles il faut travailler et il faut arrêter de râler et regarder aussi un petit peu ce qui se passe à travers le monde parce que les Français ont un peu parfois du mal à regarder ce qui se passe ailleurs.
On alors pas justement, seul, à courrier international, vous regardez ce qui se passe à travers le monde.
Tout à fait, on regarde aussi comment les Français sont perçus à travers le monde et c'est sûr qu'on a une image de toute façon de râleurs,
parce qu'ils nous connaissent mal.
Voilà, de personnes qui résistent à la réforme. Mais il y a en ce moment beaucoup, nous, vous savez, on observe ce qui se dit sur le président dans la presse étrangère qui aime beaucoup Emmanuel Macron et qui en ce moment, notamment la presse européenne, dit beaucoup, voilà, le problème c'est qu'il veut mener des réformes, mais qu'il est confronté à des Français qui n'aiment pas le changement, qui sont râleurs, qui sont rétifs à tout avancer dans le changement. Mais après, Emmanuel Macron aussi, il sait peut-être les réformateurs, mais il ne faut pas non plus qu'il se transforme à l'infini en président moralisateur. Parce que entre il suffit de traverser la rue pour trouver un emploi, les Français sont à là, c'est un peu aussi le donneur de leçons. Et c'est à lui aussi de trouver les solutions pour que les Français ne se plaignent pas.
Jacques Isabello, c'est aux communicants que je m'adresse. C'est une bévue, une faute de communication ou non?
J'ai posé une question bête à Pascal Perrineau, le grand sondeur, en lui disant les sondages dans des pays qui étaient des dictatures. Il me dit, vous savez, quand on demande son avis à des gens dans une dictature, généralement, ils ne vous disent pas la vérité. Je me suis aperçu que c'était stupide. C'est l'apanage de la démocratie. Je veux dire, si les gens ne peuvent pas donner leur avis, eh bien, ça ne s'appelle plus une démocratie. Mais là où votre question est très pertinente, c'est de se dire, Emmanuel Macron est quelqu'un qui a été élu sur des valeurs de réconciliation. Il a osé l'Europe, il a osé des thématiques qui était assez osé. Et c'est vrai que depuis quelques mois, depuis cette affaire Benalla, il s'est installé dans un ton vis-à-vis de son peuple, parce qu'il a utilisé cette expression-là, eh bien, les gens ne s'y retrouvent plus et il est en permanence en train de faire des gaffes. Il a des expressions qui sont assez peu empathiques et de plus en plus... Dans les enquêtes d'opinion, on s'aperçoit que les gens sont opposés à ces jugements. Et ça, c'est très préoccupant parce que, vous savez, en communication, on a l'habitude de dire, une fois que vous avez creusé un trou, eh bien, vous tombez dedans et vous avez du mal à en sortir. Et j'ai l'impression qu'Emmanuel Macron est tombé dans un trou. Et ce trou, on le retrouve tous les dimanches ou tous les 15 jours dans certaines des enquêtes d'opinion.
Sois-y, Kimener.
Il avait une force, Emmanuel Macron, et d'ailleurs ça avait été identifié très très tôt par des proches de François Hollande qui voyaient son ascension avec angoisse et ils avaient raison. Il disait il a préempté dans le débat public l'optimisme et c'était la force d'Emmanuel Macron de dire on n'est pas si nul, on va y arriver ensemble. C'est ça qui a fonctionné aussi pendant l'élection présidentielle. Et maintenant il est en train de ramener tous les vieux stéréotypes sur les Français en disant vous êtes des Gaulois réfractaires, comment vous faites que râler. Enfin je résume, enfin en substance. Et donc, ça va totalement... Je caricature à peine, mais ça va totalement à l'inverse de ce qu'il disait pendant la campagne. C'était la face solaire de la France, quelque part, l'Europe, on va aller bien. Alors, c'est devenu aussi le candidat de la France qui allait bien, il ne faut pas se leurrer. Mais il avait cette promesse-là, en tout cas, que voilà, on allait vers un nouvel optimisme français. Et ça, c'est totalement contradictoire avec ce qu'il dit aux Français, en leur expliquant que vous êtes nuls, vous ne savez pas traverser la rue, tous les messages qui sont envoyés, effectivement... récemment.
Aziz Sani.
Oh, il y a peut-être de la maladresse dans la communication, mais moi je le redis, traverser la rue pour trouver un emploi. Certes, l'image est peut-être pas la meilleure, mais la réalité, c'est qu'aussi, il y a des tas de chefs d'entreprise qui ont des postes à pourvoir et qui n'arrivent pas à trouver des gens. Oui, du boulot, il y en a. Après, on peut parler sur l'adéquation entre la formation, etc., etc. Mais du travail, il y en a. Et Pôle emploi a des études sur le sujet. Concernant le français...
La violence pour les chômeurs d'entendre ça, vous n'avez pas traversé la rue.
C'est pour ça que je dis qu'en termes de communication, et j'ai commencé là-dessus en disant que oui, effectivement, il y a maladresse sur la communication. Après, sur le fait que les Français...
Maladresse sur la communication.
Ah, oui.
Et
oui.
Il faut que je vous coupe, malheureusement. Ça tombe encore sur vous, je suis désolé. C'est un plaisir de vous avoir vous informer. Très vite, la une de Courrier International, Aziz Mostafavi.
Péril sur le Vatican. Donc, on s'intéresse au déboire du pape qui est quand même confronté à une fronde des conservateurs alors qu'il essaye de s'opposer aux affaires de pédophilie.
Sois-y Kemener, la une de Marianne
alors,
cette semaine.
Pouvoir d'achat, le grand mensonge avec les extraits d'un livre qui dénonce et les guignols, je vous laisse deviner de qui il s'agit. Il s'agit de quelqu'un qui est à Lyon.
Je préfère ne pas imaginer. Merci en tout cas à vous, Jackie Isabello et Aziz Seni. Les informés, c'est terminé pour ce soir, mais demain et ce week-end, vous retrouverez aux informés l'ami Pierre Neveu. Bonne soirée à tous.